Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau, non pas trois, mais deux pour l'instant, invités. Christian Saint-Étienne nous rejoindra tout à l'heure. Il est bloqué dans les transports. Il est économiste, auteur de Trump et nous, comment sauver la France et l'Europe. On va peut-être voir comment sauver le Moyen-Orient aussi. Avec Donald Trump, c'est un peu compliqué. En attendant, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Rafik Smati. Bonjour Rafik.
Bonjour Raphaël.
Fondateur de Luxor.ai et président du groupe Aventures. Et face à vous, Jean-Pierre Petit. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Président des Cahiers Verts de l'économie. On va commencer tout de suite par l'Iran, qui est quand même le sujet qui nous occupe chaque jour dans les experts. On essaie de décrypter les conséquences économiques de ce conflit géopolitique. Un conflit qui s'enlise, on entre dans la 18e journée de guerre. Je l'ai dit en introduction, Bruxelles, Berlin et Londres ont dit non à l'appel de Donald Trump à l'aider à sécuriser le détroit d'Ormuz. Donald Trump qui a quelques difficultés avec les navires démineurs, notamment l'Europe en a, mais l'Europe ne veut pas les envoyer. Alors, Paris n'a pas encore donné sa réponse. D'ailleurs, hier, il a donné une note, Donald Trump, à Emmanuel Macron. 8 sur 10, c'est plutôt pas mal. Hein, après
de
un
sa
call,
part, oui, c'est...
Voilà, alors ça fluctue régulièrement avec le président américain. Mais la conséquence économique, c'est qu'on n'a que 36 vraquiers qui sont passés par le détroit d'Ormuz depuis le début du conflit. 4 ces dernières 24 heures. Avant la guerre, c'était 130 à 150 par jour. Hein. Quels sont, Rafik Smati, je commence avec vous, quelles sont selon vous les principales conséquences aujourd'hui de ce conflit sur notre économie, à nous, Français et Européens?
Vous savez, l'incertitude est l'ennemi de l'économie. Et aujourd'hui, les acteurs économiques, et moi, mon prisme d'analyse, c'est plus un prisme d'analyse microéconomique. Cette guerre nous a été vendue par le président américain comme une guerre express qui allait durer 48 heures.
Eh oui.
Why not?
Ça n'est jamais le cas.
Une guerre express, on peut s'en remettre. Le scénario de l'enlisement aujourd'hui, que personne ne maîtrise, si vous réussissez à avoir sur vos plateaux des personnes qui sont capables de vous donner une certitude absolue sur
qui va faire certitude, oui, ne les croyez pas.
Ces prochaines semaines et ces prochains mois, je m'en méfierais. Donc tous les scénarios sont sur la table, le scénario d'un scénario qui s'enlise pendant plusieurs semaines mais qui serait redoutable d'un point de vue économique parce que pendant ce temps-là les acteurs économiques se figent et y compris les consommateurs. Quand vous êtes face à une incertitude qui est géopolitique, mais qui a une incidence sur le pouvoir d'achat à travers le prix des carburants.
Eh oui.
Très logiquement, ça a un impact.
C'est certainement la première conséquence extrêmement visible.
Exactement. Donc très logiquement, ça a un impact sur la consommation des ménages. Ça a un impact sur les comportements des entreprises qui vont figer leurs investissements, qui vont peut-être voir leur prix de revient augmenter. Donc, quand on est dans cet océan d'incertitude, eh bien, les choses se figent. Et je suis incapable de vous dire aujourd'hui si on est parti pour 6 mois de conflit un petit peu comme maintenant, ou est-ce qu'il va y avoir une attaque éclair dans quelques jours qui va faire en sorte que tout s'arrête, ou est-ce que inversement Donald Trump va nous trouver une pirouette pour nous dire que il a gagné sans avoir gagné et qu'il va quitter les lieux. Tous les scénarios sont possibles. En tous les cas, tout ce que je peux vous dire, et là c'est le chef d'entreprise qui parle, et c'est le consommateur et c'est le citoyen qui parle, plus les choses iront vite et plus on en sortira, quelle que soit l'issue, mieux ce sera pour tout le monde.
Mieux ce sera, oui, évidemment. Et alors Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie, qu'est-ce que vous conseillez à vos clients aujourd'hui dans ce contexte-là? Est-ce que le choc pétrolier qu'on connaît là, enfin choc, d'abord est-ce que c'est un choc Jean-Pierre Petit, 100 $, 105 $, on voit qu'on se maintient autour des 100 $, quoi. Est-ce que c'est véritablement un choc pétrolier?
Oui, c'est un mini, appelons-le mini-choc par rapport au premier choc pétrolier de 73-74. C'est un mini-choc, mais il n'y a pas que le pétrole, hein. Il y a le gaz aussi, puisque une grande partie, enfin l'essentiel du GNL qatari passe par le détroit d'Ormuz. C'est un choc engrais, et puis c'est un choc. Alors sur les prix, il y a effectivement les matières premières au sens hydrocarbures, gaz naturel et
d'abord et avant tout
pétrole, mais il y a aussi le coût du fret maritime qui augmente d'une manière générale à cause de l'instabilité géopolitique. Il y a les engrais, je viens de le dire, il y a l'incertitude géopolitique et il y a une légère dégradation des conditions macrofinancières aussi. bah, elle est pas énorme, mais les marchés actions baissant un peu, les spreads de crédit, surtout sur la partie la plus risquée, remontant un peu,
parfois. Mais ça reste très léger.
Oui, pour l'instant, je suis d'accord. Non, mais pour l'instant, ça reste très léger. Ah oui, mais ça dégrade quand même les perspectives de croissance. Vous étiez avant avec des perspectives de croissance de 2,5 aux États-Unis, de 5, de 6. Bon, bah déjà, faut rien que là, sur la base du news flow qu'on a depuis presque 3 semaines, un peu moins de 3 semaines,
oui.
Là, ça se dégrade à pas grand-chose. Hein, c'est quelques dixièmes de points, mais enfin, c'est pas totalement négligeable pour les espérances de BPA, de bénéfices par action des entreprises. Voilà. Alors, sur l'histoire de bilan. Alors, faire des bilans et de parler d'enlisement.
Ouais.
Enfin, je veux dire, on est à 18 jours de guerre.
18e jour de conflit, effectivement.
C'est quand même un peu ambitieux,
ouais,
de faire des bilans, hein, et de parler d'enlisement, sachant que l'Iran, c'est pas rien. C'est un bien, c'est quand même.
Bah, c'est pas le Venezuela, quoi.
Non, c'est pas le Venezuela. C'est trois fois la France en termes de superficie. Trump, c'est une grande puissance historique, on va dire, qui a été considérablement affaiblie. Il y a 90 millions d'habitants. Enfin, c'est pas rien. Et c'est un pays systémique également, pas seulement au niveau macro, c'est un pays systémique au niveau politique.
Géopolitique. Évidemment, pour toute la région.
L'action de Trump, il y a des quantités de présidents américains qui l'auraient rêvé depuis 47 ans. Parce que s'il y a bien une nation qui perturbe le monde depuis 47 ans, c'est bien la République islamique d'Iran, quand même, hein, que je sache. Pas seulement au plan économique, d'une manière plus générale. Et qui a abouti à un appauvrissement du pays. Il faut voir dans quel état était, oui, l'Iran dans les années 70.
Eh oui.
Le Shah d'Iran n'était pas un enfant de cœur, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais au moins il avait développé un certain nombre de choses en termes d'infrastructure, en termes d'éducation, notamment pour les jeunes filles. Il y avait eu quand même un certain nombre de résultats. Et là, l'Amérique de Trump, s'il se trouve que c'est Trump, mais il se venge aussi par rapport à l'Amérique de Carter, considérablement affaiblie, celle de 79, où Carter est humilié parce que il ne soutient plus le Shah d'Iran, qui pourtant l'aurait mérité au moins au début, compte tenu de son état de santé, etc. Il essaye de se concilier le nouveau pouvoir islamique en Iran, et il se fait humilier par un acte contraire au droit international, alors complètement contraire au droit international.
C'est pour ceux de l'ambassade
qui se réfèrent au droit international. Là, récemment, à cause de l'attaque Epic Fury, il faudrait bien de réfléchir à comment s'est construite la République islamique sur la remise en cause d'un droit, d'un élément clé,
oui,
du droit international public, qui est la sécurité des diplomates.
Des ambassades.
Je le rappelle quand même, ça a duré plusieurs mois.
Prise d'otage à l'ambassade américaine.
Et les Iraniens ont libéré les otages le 20 janvier 1980, c'est-à-dire le jour de l'intronisation de Ronald Reagan. Voilà. Donc l'Amérique a été humiliée, voilà, affaiblie par ça, et donc quelque part. Et je voudrais aussi me référer à un deuxième grand personnage de l'histoire américaine, c'est MacArthur, qui est probablement l'une des plus grandes figures militaires du XXe siècle aux États-Unis. Il disait toujours, et notamment il le disait à Truman, il disait, moi je ne connais que deux mots pour qualifier les défaites militaires. C'est trop tard. Et il le disait au début des années 50, au démarrage de la guerre contre la Corée du Nord, qui avait envahi la Corée du Sud. Mmh. Et il lui demandait carrément d'utiliser l'arme nucléaire. Évidemment, Truman a refusé, parce qu'il voulait pas recommencer Nagasaki, Hiroshima. Mais quand on voit ce qui est devenu la Corée du Nord, un pays de 25 millions d'habitants, une espèce de secte, en fait, hein, fondamentalement, c'est un régime complètement hors sol, mais qui emmerde le monde, hein,
il faut bien le dire,
grâce à l'arme nucléaire, on se dit que parfois, l'inaction est pire que l'action. Voilà. Et je dis ça parce que la tendance naturelle chez les éditorialistes en Occident, c'est de parler d'enlisement, de parler de difficultés. Ah ben, ça s'est pas résolu en 3 jours. Ben non, ça serait... C'est des problèmes de long terme. Hein,
Bon, mais donc, ça veut dire qu'on est là, dans ce conflit, pour un certain temps, voire un temps certain.
Vous voyez, j'ai un coup de gueule à pousser, parce que le problème que nous avons en France, c'est que nous ne sommes pas, aujourd'hui, structurés, armés intellectuellement, politiquement et moralement pour faire face à cette succession de conflits qui arrivent. Et même budgétairement, d'ailleurs. Et c'est le sujet principal. Pourquoi ?
On va y venir.
L'économie est une affaire de cycle.
Oui.
Très bien. Nous, quand on est dans un cycle un petit peu haussier, où les choses vont un petit peu mieux, plutôt que de renforcer nos fondations comme on devrait le faire, on distribue. Il y a deux ans, on a fait une augmentation massive des pensions de retraite de plus de 15 milliards d'euros. On ouvre les vannes, on considère que l'argent est illimité. Et lorsque l'on arrive à un moment de crise tel que celui-ci, on est à sec et on n'a plus aucune marge de manœuvre. Je rappelle que l'année dernière, qui est un pays où la croissance mondiale était aux alentours de 5% et où les choses, alors c'était pas le Nirvana, mais les choses étaient, c'était quand même redressé par rapport à la crise de 2022, la crise énergétique, etc.
On sortait de la crise énergétique.
Un grand nombre de pays européens se sont restructurés. L'Italie est redevenue la quatrième puissance exportatrice.
Oui.
Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert les vannes. On a fait du clientélisme politique. On a voulu préserver des cibles électorales, comme si l'argent coulait à flot. Alors que, et c'était la fameuse formule de Kennedy que vous connaissez tous, c'est quand il fait beau, qu'il faut réparer le toit.
Oui.
On va pas attendre les crises pour réparer le toit. Et le problème que
l'autre
nous avons en France,
des années 30,
comme ça,
on ne peut pas avoir le beurre et les canons.
Mais c'est ça, mais c'est ça. Et ça fait maintenant 30 ans que, à chaque cycle favorable ou pseudo-favorable, plutôt que de renforcer nos fondations, plutôt que de nous réarmer, et notamment militairement, on a sacrifié nos armées à cause de ça. On s'est mentalisé en se disant que le risque était terminé et qu'il fallait créer une société de la protection, et on a mis tous les milliards là-dedans, et on a sacrifié l'avenir. Et quand on arrive dans une crise, que ça soit l'Ukraine, que ça soit la crise énergétique de 2022, que ça soit la crise qui va nous coûter beaucoup d'argent, et notamment à nos finances publiques, eh bien on est à sec. Et moi, je crois que il est temps aujourd'hui qu'on ait une vraie logique de planification qui nous permette de nous renforcer quand ça va bien pour pouvoir être offensif quand ça va mal.
Bon, on va y venir sur les questions d'économie de guerre, notamment en France. Mais avant ça, je voudrais faire un dernier point sur l'énergie. Vous le disiez, Jean-Pierre Petit, la question du Moyen-Orient, c'est le pétrole, mais c'est aussi le gaz qui détermine notre coût de l'électricité, nous, en Europe. Est-ce qu'on est la région la plus à risque vis-à-vis de cette crise? Chaque crise est une opportunité. Donc, est-ce qu'on n'a pas des changements à opérer? Qu'est-ce que, intelligemment, on pourrait mettre en place pour faire en sorte de sortir de ce conflit-là un peu plus fort en Europe, Jean-Pierre Petit? On a le nucléaire, nous, quand même, en France. C'est un atout, non? Est-ce qu'on ne doit pas accélérer et aller
c'est
plus vite, par exemple?
C'est un atout que, malheureusement, on a affaibli au cours des dernières décennies. C'est hallucinant, d'ailleurs, quand on voit la qualité, le manque de perspicacité, de clairvoyance.
Ursula von der Leyen a reconnu elle-même une erreur stratégique il y a une quinzaine d'années.
Ça, c'est un peu trop facile.
Et qu'il fallait... Non, mais c'est des mots forts. Facile, je ne suis pas sûr. Non, ce sont des mots forts. Maintenant, il faut agir.
Von der Leyen, comme Merkel, ne se sont pas que plantés là-dessus. Alors, ils se sont plantés particulièrement après Fukushima, puisque... l'abandon définitif, quasi définitif du nucléaire.
Mais oui, mais après... reconnaître ses erreurs, c'est un premier pas vers la rédemption,
Jean-Pierre
Petit.
Oui, mais il y en a eu tellement d'erreurs qu'elle continue de faire des erreurs. C'est ça le problème. Sur l'immigration, il y a une grave erreur aussi en 2015. L'ouverture des vannes en matière d'immigration était une grave erreur. Le fait de dépendre de la Russie à des niveaux... Alors que Poutine nous avait envoyé quand même des messages. Je veux dire, il n'a pas été...
Il
est au pouvoir depuis 1999, oui. Poutine. Il va bientôt battre le record de Staline. Il nous a envoyé son message à Bucarest en 2008 contre l'Occident, si je me souviens bien, l'intervention en Géorgie en 2008, l'intervention en Crimée en 2014. Mais on a continué, Merkel a continué à reposer sur faire sa stratégie énergétique, oui, sur le gaz russe. Sa stratégie mercantile d'exporter à tout va vers la Chine, aux États-Unis, malgré la nomination de Xi Jinping à la fin 2012 quand même, hein. La première élection en novembre 2016 de Trump quand même, elle a continué.
On va pas refaire l'histoire. Aujourd'hui, Jean-Pierre Petit, aujourd'hui, quelle solution, qu'est-ce qu'on doit faire?
Le nucléaire, évidemment. La question, c'est comment on renforce notre souveraineté, en fait, hein, fondamentalement.
Ah, oui.
Et d'ailleurs, c'est pas que la souveraineté, c'est pas seulement la souveraineté énergétique, c'est la souveraineté technologique. Quand on voit que 90% des bases de données en Europe sont gérées par des boîtes américaines. Vraiment, enfin, c'est hallucinant.
Oui, mais là, c'est pas le sujet du Moyen-Orient.
Dans cette crise, il faut mettre le paquet sur la souveraineté. Voilà. La souveraineté et le souverainisme.
Donc c'est Emmanuel Macron qui avait raison dès le départ.
Non. Pas du tout.
Il n'est pas
du tout
sur la thématique. 2017, 2018.
Oui, mais il n'est pas sur une thématique générale de souveraineté. Sur l'aspect militaire, il a eu des discours qui allaient dans le bon sens. Encore que pour faire ces discours, il faut être crédible sur le fond. Quand on a une dette publique qui augmente, on n'est pas crédible.
Ouais.
Voilà, fondamentalement.
Puisqu'on sait bien. Des paroles et des actes, effectivement. Il n'a pas aidé à la souveraineté.
Et puis c'est la souveraineté sanitaire, parce que plus ça va se dégrader, hein, la souveraineté sanitaire,
oui.
la souveraineté énergétique, la souveraineté aussi alimentaire. Enfin, il y a plein de choses à travailler. Et le souverainisme, contrairement à ce qu'on a dit pendant des décennies, ce n'est pas le protectionnisme. Ce n'est pas la même chose. Parce qu'on l'a souvent présenté comme une forme de protectionnisme, donc on a évacué le sujet.
Oui.
C'était un débat interdit. Comme il y a eu des débats interdits sur l'immigration, parce que sinon c'est de la xénophobie, etc. Non, pas du tout. La plupart des pays régulent bien, enfin, en dehors de l'Europe, régulent relativement bien les problèmes migratoires, et c'est pas du tout des pays xénophobes. Tout le monde est contre la xénophobie. Voilà. Donc, c'est ces débats interdits qu'il faut soulever à nouveau. Et le nucléaire est un bon exemple, bien sûr.
Bon, pousser le nucléaire. Rafik Smati, des solutions pour. D'abord, enfin, moins sensible à ce genre de crise.
D'abord. La sortie de Ursula von der Leyen sur le nucléaire, admettant qu'elle a fait une erreur, c'est pour moi ce que la politique et la technocratie produit de plus nauséabond. Ce fameux circuler, il n'y a rien à voir. En gros, on s'est trompé pendant 10 ans, mais c'est pas grave, on prend nos responsabilités. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, je suis pour la prise de risque.
Et vous
je
lisez
suis...
comme un circuler, il n'y a rien à voir. Moi, je lis plutôt comme.
Mais je vais vous dire.
Je reconnais qu'on a fait une erreur.
On a le droit de se tromper, et moi, en tant que chef d'entreprise, je me trompe souvent. Mais quand on se trompe, il y a une valeur qui est une valeur qui doit être corollaire, c'est l'agilité. On peut se tromper aujourd'hui, mais on s'en rend compte vite et on réagit demain pour corriger. Quand on se trompe et qu'on met 10 ou 15 ans pour s'en rendre compte, c'est pas de l'agilité, c'est de la technocratie. Et ça, c'est inacceptable. Et ça fait 30 ans que ça dure. On a tué Superphénix, qui aurait pu nous permettre d'avoir la France aujourd'hui en position dominante sur les surgénérateurs. On a tué le programme Astrid il y a quelques années. On a eu un président de la République et un premier ministre en exercice aujourd'hui qui se vantait il y a quelques années, de fermer 14 réacteurs nucléaires. Alors, il s'est trompé et il a fait mea culpa. Et aujourd'hui, on a une loi de programmation de l'énergie qui prévoit l'ouverture de 6 réacteurs EPR. 6 seulement.
Plus 8 en option.
Il y en a 8 en option. Oui, mais attendez, on rentre dans un monde qui va être ultra électrifié, où on prévoit l'arrivée massive de véhicules électriques, de robots, humanoïdes qui vont arpenter toutes nos usines, etc. On va rentrer dans un monde extrêmement énergivore. La France se dirige vers 1000 milliards de térawattheures. C'est ça notre besoin aujourd'hui. Et c'est pas avec 6 réacteurs EPR. Donc
la faut bien commencer, Rafik Smati. Oui, c'est quand même un virage complet.
Mais je vous trouve bien complaisant.
Par rapport au précédent programme.
Oui, mais je vous trouve bien complaisant.
On a fermé Fessenheim notamment.
Non, mais je veux bien qu'on commence. Parmi les 6 réacteurs EPR, est-ce qu'il y a eu une pierre qui est sortie du sol? Une seule.
On n'y est pas encore. Hein.
On n'y est pas encore. Donc on est en train de parler.
On a acté des décisions pour l'instant.
On a acté des décisions en 2022.
Le premier réacteur sera relié en 2038.
Voilà, non mais regardez un petit peu les circuits de décision.
Le premier des 6.
Le président de la République fait un discours fondateur que j'ai approuvé à l'époque, en 2022, en disant on s'est trompé, on lance un programme d'EPR, 2022, et le premier réacteur nucléaire sort en 2038. C'est pas sérieux.
C'est un peu plus lent que les Chinois, par exemple. Effectivement,
oui.
Un peu plus vite. Allez, il faut qu'on avance. Je voulais qu'on passe au second débat. Christian Saint-Etienne nous a rejoint. Bonjour Christian, économiste auteur de Trump et nous. Comment sauver
la France?
Après
une panne de signalisation sur le métro, ça
et
rejoint
alors,
ce que disait
Rafik. Voilà, tout un symbole. Je voulais qu'on parle des 3 ans d'économie de guerre. Aujourd'hui aurait dû se tenir à Matignon une réunion pour faire un peu le bilan de la montée en gamme, de la montée en cadence de production, notamment de notre base industrielle de technologie et de défense. On est aussi un an après une réunion importante à Bercy. On avait signé, sonné la mobilisation générale autour du financement de cette BITD. 3 ans après, je commence avec vous, Christian Saint-Etienne. Où en sommes-nous? Est-ce qu'on a réussi le pari de l'augmentation de la cadence de production de notre matériel militaire?
Alors, pour pas être totalement négatif, on va dire que la situation est contrastée. Il y a eu des décisions, par exemple, ramener la production de poudre sur le territoire français, alors qu'on l'avait envoyée à l'extérieur. On a d'ailleurs un acteur de fabrication des poudres qui est très très bon au plan international.
Absolument.
On a un peu augmenté la production d'obus. On a un peu accéléré la production de canons César. Bon.
On va 3 fois plus vite qu'il y a 4 ans sur la production des obus et des canons César. Tout
oui. Mais quels sont les enseignements des guerres d'Ukraine et sur le Golfe? La France a un retard historique depuis 25 ans sur la fonction missile-antimissile. Donc, il faudrait carrément multiplier par 10 les investissements sur missiles, antimissiles.
Ouais, c'est un peu le sujet du moment, là.
Voilà. Et le deuxième élément, c'est un ratage total depuis 25 ans sur les drones. Donc, on est en train de rattraper, mais trop doucement. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste militaire, mais j'ai quand même fait mon service militaire comme officier. Je pense qu'à un moment donné... nous n'avons que 202 000 soldats sur un pays de 70 millions d'habitants. Donc, je pense qu'il y a plusieurs initiatives importantes à prendre. Je serais favorable à un retour à un service militaire à la Suisse. C'est-à-dire que de 18 à 35 ans, on fait 10 jours par an de formation militaire pour tripler ou quadrupler les réserves de nos armées, parce que 200 000 hommes, c'est pas assez.
On a beaucoup de réservistes.
Ce que là, oui, bon, on a 60 000, mais il en faudrait trop 400 000. Parce que ce que la guerre d'Ukraine a annoncé, c'est que la masse compte. C'est le retour de la masse. Il faut à la fois la qualité technique et la masse. Et je pense qu'il faut... Alors, ça, on l'a évoqué, et je termine par là mille fois chez les experts, mais la réindustrialisation est trop peu rapide. Or, le redéveloppement de l'industrie militaire serait un facteur clé de la réindustrialisation.
On a demain le président de la République qui devrait annoncer le nom du futur porte-avions.
Oui, oui.
Ce chantier, ça... c'est 800 entreprises
ça, c'est
autour
exact, mais
du nouveau porte-avions français.
On pourrait discuter indéfiniment du choix, parce que actuellement, il faut savoir que sur les 20 dernières années, on a divisé par deux la marine de guerre française, mais que en positif, on produit des frégates exceptionnelles
qui fonctionnent. On l'a vu à Chypre, on a envoyé le Languedoc qui a fonctionné très bien.
Et donc
la marine
là aussi,
britannique n'a pas pu l'envoyer.
C'est un gros.
Quelques navires que ce soit.
On ne va pas discuter ici parce que c'est l'économie et finance ici, mais il y a un vrai débat. Est-ce que soit on a deux gros porte-avions, mais il faut doubler, tripler ou quadrupler le nombre de frégates parce que c'est ça qui semble le plus utile actuellement dans la guerre. Voilà, il y a donc un effort considérable. Le budget de la défense nationale en 2026, en normotant, va passer à 2,15% du PIB. Il faut qu'on monte assez rapidement à 3. Et ça ne peut s'inscrire que dans une vision de reconstruction de la base industrielle de défense et la réindustrialisation.
Votre bilan, Rafik Smati, est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait? Emmanuel Macron a doublé. La loi de programmation militaire, quand même, aura doublé en 10 ans le budget des armées. C'est un effort conséquent.
On est passé de environ 31 milliards d'euros de budget à un petit peu plus de 60 milliards. Donc, il y a eu clairement un effort et un volontarisme qui a été fait sur les armées, mais qui relève davantage du rattrapage des erreurs des décennies que nous avons passées que d'une véritable stratégie de conquête. C'est vrai que depuis quelques années, depuis quelques mois, la cadence et la base industrielle de défense française se met en ordre de bataille. On sortait un Rafale par semaine il y a quelques années, on en sort trois aujourd'hui, bientôt quatre.
Voilà.
Les délais de production ont été raccourcis, on était à 24 mois, on est à 12 mois maintenant, voire un peu moins pour certains canons et certains missiles. Donc tout ça va évidemment...
Mais donc ça fonctionne, quand ça fonctionne, il faut le dire aussi. Quoi.
C'est exactement...
On est très critique dans cette émission.
C'est exactement ça.
Donc, quand ça fonctionne, il faut le dire.
Mais la nuance que j'ai envie d'apporter est là. C'est-à-dire qu'on est en train de faire un rattrapage sur un modèle qui correspond parfaitement aux guerres d'hier et d'aujourd'hui. Mais comme souvent en France, on joue en réaction et pas en action. C'est-à-dire qu'on est en rattrapage, et c'est un rattrapage qui est absolument salutaire, sur les guerres d'hier et d'aujourd'hui, mais est-ce qu'on est réellement en train de préparer les guerres de demain?
C'est la grande question.
Est-ce qu'on est réellement en train de parler des guerres de demain qui se dérouleront dans les abysses, c'est-à-dire dans les grands fonds marins, qui se dérouleront dans l'espace, dans les très hautes altitudes, et dans le cyber, avec des menaces qui sont absolument monumentales. Avec aujourd'hui des grandes puissances qui sont en train d'inventer de nouveaux paradigmes, je pense par exemple aux Chinois qui sont en train de mettre en place des armées de robots fantassins, qui vont inventer une nouvelle type de guerre avec de nouveaux paradigmes de défense et d'attaque. Et nous, aujourd'hui, on n'est pas du tout dans tous ces sujets-là. Les budgets alloués à la cyberdéfense augmentent, mais rien à voir par rapport à la hauteur des enjeux. Donc moi, ce qui m'inquiète, comme toujours, oui, il y a un rattrapage, oui, il va y avoir un deuxième porte-avions, et c'est très bien, parce que le porte-avions, c'est un outil de communication géopolitique. Quand vous envoyez un porte-avions, c'est peut-être pas le plus efficace d'un point de vue militaire, mais en termes de communication, ça en impose, et on est dans un monde d'image, on est dans un monde de communication, donc c'est bien.
C'est 10 milliards la campagne de pub, quand même. Hein.
Exactement. Ce que le président de la République a dit sur la dissuasion nucléaire, avec l'augmentation des têtes nucléaires, avec les nouveaux missiles M51, etc., tout ça, c'est très bon. Mais ça ne prépare pas le 22e siècle. Et le 22e siècle, dans un temps long, puisque la défense nationale, la réindustrialisation, ce n'est pas une affaire de 3-4 ans, devrait se préparer aujourd'hui. Et c'est ça, aujourd'hui, mon principal point d'inquiétude.
Bon, je rappelle que le budget des armées en Iran, c'est 10 milliards, que le budget de la défense américaine, c'est 1000 milliards, et que les Américains ont plutôt du mal face aux Iraniens.
Oui, mais ils sont pas présents. Ils ne sont pas présents qu'en Iran. C'est la seule armée qui est présente à peu près
dans toutes
les armes, etc. Donc, on peut pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut pas comparer même l'effort de défense depuis 80 ans aux États-Unis et en Europe. Même si le PIB était parfois
favorable. Il y a les gendarmes du monde d'un côté.
À l'Europe. Et l'Europe. On a pu dépasser l'Europe à 27, a pu dépasser le PIB américain, hein, il n'y a encore pas si longtemps que ça, 25 ans à peu près. Mais nous, comme on a fait le choix de dépendre de la protection américaine, et qu'on en a bénéficié, sauf que là, il y a un changement.
Hein. Et voilà.
Un changement qui n'a pas commencé avec Trump, d'ailleurs, hein, soit dit en passant.
Et pour réagir.
Alors là, il y a quand même des régulateurs qui arrivent, c'est Trump. C'est la conflictualité qui monte dans le monde. Hein. C'est nos engagements, puisqu'on fait pratiquement tous partie de l'OTAN. 3,5%, sans compter 5% si on tient compte des infrastructures critiques, etc. On en est encore loin, hein. On est encore très très loin. Je parle pas de l'Espagne, hein. Je parle même de la France. Il y a très peu de projets.
C'est qu'il va falloir qu'on s'arrête, Jean-Pierre.
Oui,
petit,
mais,
hein,
ouais,
bon, ouais, la musique a commencé, il est 10h29.
On parle de l'avenir du monde.
Parti, on
les
plus,
projets,
hein.
Il y a trop peu de projets collaboratifs. Ouais. Voilà, ils sont archi minoritaires. Et même l'orientation vers les dépenses de production militaire européenne, elle est assez soft, hein. Dans le projet phare, etc. Donc, on est lent.
On est lent.
Lent, bon. Et mou.
Alors, voilà, tâchons d'être plus riches. Si on est lent et mou, tâchons d'être plus riches. Et là, on va parler compétitivité française après la coupure pub.
Ah oui,
dans une petite minute, Rexecode tire la sonnette d'alarme. On produit des bons niveaux de gamme, mais on est trop cher. Alors, comment on peut améliorer ça? Et puis, on va surveiller les banques centrales cette semaine. Jean-Pierre aura l'occasion d'y revenir très largement, tout en longueur. Ne quittez pas, on se retrouve dans une très courte minute.